Bonjour, vous êtes sur Radio Galère 88.4 à Marseille, dans l'enceinte de la Friche Belle de Mai, en direct du local Labo Friche. Et nous sommes entourés de beaucoup, beaucoup de monde face à nous. Nous sommes au deuxième jour de l'événement des 100 ans de Frantz Fanon. Aujourd'hui, à la date du 15 novembre, nous faisons suite à la projection du film documentaire d'Hassan Mezine, cinéaste et militant qui a eu lieu la veille au cinéma Gyptis de la Belle de Mai. Et ce film, intitulé « Fanon, hier et aujourd'hui », est un documentaire qui raconte qui était Frantz Fanon et quel héritage nous a-t-il laissé à travers le monde. Fanon est né en 1925 et il est mort en 1961. Mais sa pensée demeure et irrigue de nombreux terrains de lutte à travers la planète, pour citer Hassan Mezine. À travers ce film, le réalisateur donne donc à voir comment la pensée de Fanon est toujours et encore d'actualité, afin de penser ce monde rempli toujours et encore et de plus en plus de férocité, où les nouvelles formes de colonialisme sont à l'œuvre et où le capitalisme, le néolibéralisme s'expriment aujourd'hui aussi bien au niveau local, national qu'international. Si Fanon aujourd'hui est à l'honneur pour Radio Galère, ce samedi 15 novembre en partenariat avec le comité Maméga, Comagro uni des immigrations et des quartiers populaires, c'est bien évidemment pour apporter un éclairage sur ce qui est en train de, sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Car comme on le sait bien, la politique, le monde des grandes entreprises multi-exploitantes et multi-pleins d'argent s'associe avec ce qu'il y a de plus abject pour l'humanité et en s'accolant en plus à l'idéologie raciste mise au goût du jour. Il suffit de voir les médias mainstream, pour ne pas dire officiels, pour s'apercevoir que l'œuvre néocoloniale est toujours en marche et que le rapport de force avec les races lares, pour ne pas dire racistes, néocoloniaux et néocoloniales au féminin, sont bel et bien en marche. Leur révolution culturelle, c'est d'injecter dans la société un imaginaire raciste, de peur et de la haine de l'autre, où la préférence nationale est la solution au mépris de tout autre individu, sujet ou citoyen. Face à cet imaginaire raciste, néocolonial, Patrick Chamoiseau nous dira en référence à Édouard Glissant qu'il faut justement mettre en place un autre imaginaire à injecter pour faire face et lutter contre cette manière de voir le racisme. Qu'il est bon d'injecter de la lumière avec un imaginaire où la pratique est celle de la relation et où se regarder, se sourire, se dire bonjour pour commencer à se mettre en relation dans l'altérité en somme. Nous sommes en direct donc sur Radio Galère mais aussi sur une web radio canadienne appelée Alterna TV installée au Canada.
Que le comité Frantz Fanon de la Martinique.
Cercle Frantz Fanon. Je vais présenter ensuite les personnes qu'il y aura autour de la petite table. Mais en gros, voilà, moi je suis Yeta Rakiaz, j'animerai le débat avec toi, Jojo Bapin. À la technique, il y a Clément et Sidi qui vont gérer tout ce qu'il faut pour être entendu et vu ici et ailleurs sur la RCN et sur le web. Je vais te laisser parler pour faire une intro sur les 100 ans de Frantz Fanon avant de donner la parole à nos invités, Saïd Bouamama, Pierre Lézo, ensuite il y a Bernard Genet et Victor Permal qui fait partie du cercle Frantz Fanon et qui sera en ligne et parce qu'il est loin d'ici en Martinique. Voilà.
Alors, avant de commencer, je voudrais aussi parler de la librairie Transit, qui est derrière vous et qui présente des livres. Cette librairie nous accompagne tout le temps dans nos activités. Et à leur table de presse, vous pourrez voir les différents ouvrages de Fanon, ainsi que ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit à propos de Fanon. Bon, moi, je vais être très, très bref, parce qu'il y a des bavards qui vont parler après moi. Très bref, en vous présentant Fanon, donc on va rappeler qu'il est né le 20 juillet, le 20 juillet 1925, et en Martinique, et qu'il est mort très tôt, le 6 décembre 1961. Aimé Césaire disait de lui, c'est un guerrier silex. Il a consacré sa courte vie, puisque vous voyez, il est mort à 37 ans, à la lutte contre le colonialisme, sur le plan théorique et aussi dans l'action. Sa première action, c'est quand il s'échappe de la Martinique à 18 ans pour combattre le nazisme dans l'armée française. Première réaction, première désillusion, car il s'aperçoit que l'armée française qui combat le nazisme est elle-même raciste. Il devient médecin psychiatrique après des études à Lyon. Deuxième désillusion, il se croyait français puisqu'il est antillais et il s'aperçoit qu'on le voit d'abord comme noir. Et c'est ainsi qu'en 1952, il écrit le livre « Peau noire et masque blanc » qui est un premier essai sur les rapports colonisés. En 1953, il est nommé à Blida-Joinville comme médecin-chef psychiatrique. C'est alors qu'il révolutionne les soins psychiatriques en appliquant des méthodes nouvelles qu'il a apprises à Toulouse auprès du médecin Tosquiel, qui lui-même était un réfugié espagnol et qui remettait en cause complètement les méthodes psychiatriques qui consistaient à enfermer les gens, à les attacher, à les mettre hors circuit normal. Frantz Fanon, c'est un anticolonialiste, c'est un révolutionnaire, c'est un humaniste, c'est une grande figure de la lutte contre le colonialisme en Algérie. Il a été un de ses penseurs et acteurs durant la lutte pour l'indépendance. Il a été adopté algérien, il a demandé à être algérien. Il était médecin psychiatre, c'est un grand écrivain. Dans sa courte vie, il a quand même écrit pas mal, déjà 4 livres principaux, Peau noire et masque blanc, Les damnés de la terre, L'an 5 de la révolution et Pour la révolution africaine, ainsi que d'autres écrits encore. Et j'ai appris récemment qu'il avait aussi écrit pour le théâtre, mais qu'il n'a pas eu le temps de le mettre en œuvre. Il a été aussi journaliste, il était journaliste au journal Le Moudjahid en Algérie. C'est un homme du XXe siècle dont la vision reste cohérente sur la colonisation, sur la question du traitement des malades en psy, sur la question identitaire et sur le racisme. Et ces problématiques sont plus qu'actuelles aujourd'hui. Il est dans notre passé, mais il détermine aussi notre avenir. Il disait, il faut faire peau neuve pour développer une pensée neuve et tenter de mettre sur pied un homme neuf. Et ça, c'était dans les damnés de la terre. Je ne serai pas plus longue parce que je vais laisser la parole à Saïd Bouanama. Je crois que j'écorche ton nom. Bouanama, qui a écrit pas mal de choses, entre autres sur Fanon, mais pas que sur Fanon.
Bien, commémorer Fanon, c'est d'abord prendre la mesure de son actualité. Il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui, de s'apercevoir le type de débat que nous avons, le type de pratique d'un certain nombre de grandes puissances, de constater le génocide à Gaza, de constater le génocide lent au Congo, de constater les massacres au Soudan, pour s'apercevoir que les thèmes que traite Fanon ne sont pas des thèmes qui seraient dépassés. En réalité, le colonialisme, trop souvent, est analysé comme étant un phénomène du passé, alors qu'en réalité, il perdurera tant qu'il y aura des puissances dominantes et des puissances dominées, et il perdurera en pouvant même reprendre des formes anciennes quand le rapport de force le permet. C'est toute l'importance de l'œuvre de Fanon que de prendre en compte cela. Avant-hier, un des secrétaires d'État aux États-Unis remettait en avant l'idée de tutelle de certaines nations. Autour de l'analyse suivante, certains États sont faillis, donc ne peuvent plus se gouverner seuls, se faisant émus de ce qui arrive au peuple soudanais et disant on ne peut pas laisser passer, il faut absolument intervenir. Et il proposait la mise sous tutelle du Soudan, c'est-à-dire le retour à la colonisation. Voilà le discours avec lequel un certain nombre de puissants tentent de relégitimer le retour à la domination coloniale. Donc nous ne parlons pas du passé. Je prépare un, un livre, parce que je suis inquiet, sur fascisation et fascisme, qui sortira à la fin de l'année. Et en allant regarder d'où viennent les débats sur l'œuvre positive de la colonisation, je savais un certain nombre de choses comme vous, mais j'ai découvert tout un continent. C'est-à-dire la stratégie des fascistes durs en Europe, je dis bien en Europe et pas qu'en France, d'investir ce qu'ils ont appelé un gramscisme de droite. Autrement dit, de mener d'abord le combat idéologique en disant, si nous imposons nos thèmes, nos mots, nos manières de penser, nous réussirons à influencer une partie des partis de droite classiques et la voie sera ouverte vers le pouvoir. Et dans ce gramscisme de droite, un des principaux thèmes qui est travaillé, c'est la question du bilan de la colonisation pour mettre en avant qu'il y avait une dimension positive et mettre en avant qu'elle pourrait encore être utile aujourd'hui et nécessaire aujourd'hui pour sauver des peuples de la catastrophe. Donc nous sommes bien dans une actualité de Fanon. Il n'est pas possible en si peu de temps de couvrir l'ensemble de l'œuvre de Fanon. Donc je me suis contenté de choisir trois thèmes qui me semblent d'une actualité brûlante et qui me semblent devoir être vraiment dans la tête de chacun des militants et de chacune des organisations aujourd'hui qui travaillent, que ce soit sur l'antiracisme, que ce soit sur l'anticolonialisme, que ce soit pour faire avancer un idéal panafricain. Ces trois questions me semblent essentielles. Un des premiers grands apports de Fanon, ça a été de nous aider à comprendre ce qu'est un processus de domination et ce qu'est un processus d'émancipation. Quand on regarde la diversité des écrits de Fanon, on peut se demander mais qu'est-ce qui les relie, tout cela ? Mais il y a un point commun. C'est justement cette dimension de la domination. Et cette dimension de la domination, il l'a décrit de la manière suivante. D'abord, on ne peut pas penser une domination, on ne peut pas dominer quelqu'un sans l'inférioriser. Et vous aurez compris le danger des séquences, des périodes dans lesquelles reviennent des théories d'infériorisation, que ce soit à base biologique, dans les années avant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la hiérarchisation des cultures après la Seconde Guerre mondiale, ou que ce soit aujourd'hui la hiérarchisation des civilisations. Qu'est-ce que c'est que la théorie dominante aujourd'hui dans les états-majors des puissances impérialistes? C'est la théorie du choc des civilisations, écrite par Huntington, et qui est devenue la Bible de toutes les grandes puissances. Qu'est-ce que nous dit ce livre? Exactement ce que dénonce Fanon. Il nous dit, les civilisations sont en guerre les unes avec les autres, parce que certaines sont ouvertes sur l'individualité et le progrès, alors que d'autres sont fermées à l'individualité et au progrès. Il y a donc des civilisations supérieures. Comme hier on disait, il y a des cultures supérieures. Et comme avant-hier on disait, il y a des races supérieures. C'est la même logique qui change de mot, mais qui se réadapte, se renouvelle, etc. Donc comprendre ce que Fanon nous apprend sur la domination est un élément important. Il n'y a pas de domination sans infériorisation. Et nous sommes dans une séquence où les idéologies de l'infériorisation se mettent en place. L'islamophobie aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une théorisation d'une infériorisation. Vous savez, l'islam serait contradictoire avec le droit des femmes, serait contradictoire avec le progrès, serait contradictoire avec tout, en réalité. Il n'est pas adaptable. Ce serait la seule religion qui ne serait pas historique, qui ne connaîtrait pas de mouvement historique, etc. Mais Fanon va plus loin. Il nous dit l'infériorisation, ça n'est qu'une première étape. L'infériorisation, elle va jusqu'à l'animalisation, c'est-à-dire la transformation de l'autre en altérité absolue, qui n'a plus rien à voir avec moi. Et vous voyez à quoi ça mène quand on animalise l'autre, quand on le transforme en quelqu'un de complètement différent de moi. Ça autorise toutes les violences. Allez lire ce qu'écrivent les plus extrémistes en Israël aujourd'hui. Écoutez certains discours de chefs, de ministres, etc. en Israël. Vous avez la conséquence de l'animalisation. Je transforme l'autre en animal. Donc, le tuer n'a pas la même gravité que de tuer un autre être humain. Et donc, pour Fanon, la hiérarchisation, l'infériorisation conduit à l'animalisation. Et l'objectif de cela, nous dit-il, c'est bien entendu l'exploitation. Ce n'est pas par haine des autres que il y a animalisation, hiérarchisation. C'est parce qu'il y a intérêt à le faire. C'est pour en tirer un profit. C'est pour les mettre au travail en les sous-payant. C'est pour prendre leur matière première sans qu'ils se révoltent. C'est pour pouvoir les exploiter. Et il nous dit, pour que ça soit possible, il faut que l'infériorisation et l'animalisation aient conduit chez le dominé à une transformation de son être au monde, pour reprendre le terme que dit Fanon. Et cette intériorisation de l'animalisation, c'est quoi ? Ben c'est la honte de soi. Quand il y a domination, là, le dominé a honte de lui-même. Sinon, il se révolte. Sinon, il se révolte. Alors, bien sûr, cette honte, elle peut prendre des degrés très différents. Mais toute domination suppose que le dominé a honte de lui-même. L'ouvrier a honte d'être ouvrier. Il pense qu'il n'a pas été à la hauteur, sinon il ne serait pas ouvrier. Le colonisé pense que s'il a été colonisé, c'est qu'il n'est pas à la hauteur. Hein, certains ont même théorisé cela en inventant le mot de colonisabilité. S'il y a eu colonisation, c'est parce que les sociétés étaient en attente de colonisation. On a eu toute une flopée de théorisations pour justifier cette dimension de honte de soi. Et bien entendu, la honte de soi, ce n'est pas simplement la honte de l'individu. C'est la honte de son groupe social. C'est-à-dire la honte de soi, ça va renvoyer à la honte de son passé, à la honte de son peuple, à la honte de sa classe, hein, de sa culture. En fonction des dominations qu'on étudie, ça va renvoyer à cela. À la honte d'être femme, si on parle de la domination sexuée. Donc en fonction de la domination, il y a toujours cette dimension de honte de soi qui va permettre à l'exploitation de ne pas provoquer de révolte. Mais Fanon ne se contente pas de nous décrire comment fonctionne la domination. Il nous décrit aussi comment fonctionne l'émancipation. Et il nous dit l'émancipation, bien entendu, elle est différente d'une personne à l'autre, d'une classe sociale à l'autre, d'un peuple à l'autre, etc. Mais il y a des traits communs. Et en particulier, il formalise trois étapes dans le processus d'émancipation. Alors chacun, ce soir, dans votre glace, vous vous direz « Ah, moi j'en suis là !» Ou bien « J'en suis là !» Vous pourrez chacun vous auto-évaluer. Il nous dit, la première étape, quand s'installe une domination, avec la violence totale, hein, l'esclavage, ça a été le moment où l'Occident est venu, par la violence, imposer cette honte de soi. Et c'est pour ça que la violence est totale au début d'une domination. Totale pour que, justement, le dominé finisse par intérioriser qu'il est inférieur. Eh bien, la première étape, nous dit-il, c'est de tenter de ressembler au dominant. C'est tenter de ressembler au dominant. C'est-à-dire que le colonisé va espérer s'en sortir en imitant le colon. En se disant, mais puisqu'ils nous disent que c'est une civilisation supérieure, puisqu'ils nous disent qu'ils sont venus pour nous civiliser, je vais faire la preuve que je suis bien civilisé et enfin je vais accéder à l'égalité. Et que constate le colonisé malgré ses efforts de ressembler au dominant ? Eh bien, c'est qu'il n'a pas accès à l'égalité, puisque le système de domination empêche l'accès à l'égalité, puisqu'il est là pour exploiter. Donc, il ne peut pas permettre l'égalité. Et donc, cette première étape trouve rapidement une limite, qui est le constat que malgré les efforts d'entrer dans le discours du dominant, eh bien, la frontière de l'égalité s'impose. Combien... Je regarde Aziz quand on était plus jeune. Allez, je vais vous faire des aveux. Pour rentrer dans les boîtes, on se faisait appeler Luigi. On s'éteignait nos cheveux. On était persuadé que si on devenait invisible, l'égalité allait apparaître. Combien de personnes ont connu des crises existentielles très fortes parce qu'ils étaient les premiers. Au moindre débat sur les discriminations, ça arrive encore. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui lève la main, un noir ou un arabe. Hein. Non, ça n'existe pas, les discriminations. Moi, je n'ai jamais rencontré, etc. En réalité, ce sont des personnes qui sont encore à cette première étape et qui les empêchent de voir la réalité. Une fois qu'on arrive devant la frontière, devant le constat que ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? On va tordre la barre de l'autre côté, dit Frantz Fanon. La deuxième étape, c'est plonger dans le trou noir. Là, il parle de la couleur, de l'oppression de couleur. Moi-même qui essayais de nier que j'étais noir, d'un seul coup, je suis que noir. On me dit, tout ce qui est dévalorisé dans ma couleur, je considère que c'est le plus beau au monde. Et donc, tout ce qui vient de ma culture est bon, même ce qui est dépassé. Hein. Donc, je vais valoriser tout ce qui est dévalorisé. Je vais retourner le stigmate. Vous me dites que ma langue est pas une langue de la science, je ne parlerai que ma langue, j'abandonne la langue du colonisateur. Vous me dites que les habits traditionnels sont des habits qui sont dépassés, eh bien, je vais en plein hiver me mettre en djellaba, malgré ma... Et ma santé va le payer, mais ce n'est pas grave. Je retourne le stigmate, je tords la barre de l'autre côté. Et cette seconde étape est une étape de réaction à la domination. Et Fanon interroge. Est-ce qu'elle permet de l'emporter? Est-ce qu'elle permet de sortir de la domination? Et il nous dit, il en arrive à la conclusion suivante. C'est une étape qui est généralement nécessaire. Tous les mots sont pesés, il met le mot généralement. Donc ce n'est pas automatique, mais c'est généralement nécessaire. Mais qu'elle est largement insuffisante. Et là, il nous dit, c'est la troisième étape de l'émancipation, c'est justement la compréhension systémique de la domination, c'est-à-dire la compréhension politique. Et c'est là qu'il nous dit, et pour cela, il faut le passage par une organisation collective. Ça n'est pas tout seul qu'on réalise ce cap-là. C'est avec d'autres que l'on peut comprendre que ce qui m'arrive est la même chose que ce qui arrive à Asie, c'est la même chose que ce qui t'arrive. Et qu'en regardant pourquoi c'est la même chose, on peut comprendre qu'il y a un système social qui est basé sur des intérêts qui nous met à cette place-là et qui nous opprime de cette manière. Et si on regarde les débats qu'on a eus dans nos quartiers populaires et dans nos associations, on peut retrouver des images de ces trois phases-là. Il ne faut pas les mettre en opposition. Par contre, il faut que le débat, le débat ait lieu. Troisième élément sur les théories de la domination, Fanon nous dit aussi, avec le recul, si on étudie les luttes anti-esclavagistes, si on étudie les luttes des classes ouvrières ici en Europe, si on étudie les luttes féministes, si on étudie les luttes des peuples colonisés, eh bien, on peut repérer des conditions qui permettent l'émancipation. Et il en souligne trois. Comme par hasard, ce sont trois éléments soulignés par Fanon qui sont du matin au soir par BFM TV, CNews et compagnie combattus. La première, nous dit-il, il n'y a pas d'émancipation possible sans compréhension de ce qui m'arrive. C'est-à-dire avoir une grille explicative de la réalité. Pouvoir, ben justement, c'était la dimension systémique, pouvoir relier ce qui m'arrive individuellement à ce qu'il y a au fonctionnement d'une société. Donc la grille explicative. Vous aurez compris que si on veut être fanonien aujourd'hui, eh bien, on a vraiment intérêt à se dire, nous devons développer les espaces où, ensemble, en débat, on essaye de comprendre. Individuellement, on ne s'en sortira pas. Secondo, nous dit Fanon, on ne sort pas individuellement de la domination. Et donc, c'est la dimension du collectif. C'est la dimension de la création de collectif. Comme par hasard, on a des politiques systématiques pour casser tous les collectifs. Hein, la diminution des subventions aux associations, mais également les contraintes qui sont mises pour l'accès à un certain nombre d'espaces. Bref, la seconde dimension du collectif, elle est également remise en cause. Et troisièmement, nous dit-il, même si on a compris, même si on est en collectif, s'il n'y a pas d'action, même d'action qui échoue, on ne peut pas s'émanciper. L'action, c'est pas seulement pertinent quand elle gagne, c'est aussi parce que ça donne aux dominés l'idée que c'est possible d'agir, c'est possible de faire. Après les échecs, bien, il y en aura toujours. Et comme dit un autre grand monsieur, Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit j'échoue. Soit je gagne, soit j'apprends, pardon. Second thème qui me semble important dans le contexte d'aujourd'hui, parce que ça va se multiplier. Vous avez tous vu les révoltes au moment de la mort de Naël. Aucune transformation de la police a eu lieu. Donc nous allons en avoir d'autres. Je ne peux pas dire quand, etc. Mais il y aura de nouveau des drames et de nouveau des révoltes. C'est la question du rapport à la violence. On a voulu caricaturer Fanon en disant il défendait la violence. Fanon ne fait que l'expliquer et la constater. Et considérer qu'à certains moments, les dominés n'avaient pas d'autres moyens pour défendre leurs intérêts que cette violence. Et donc Fanon ne s'est pas mis dans un bureau pour dire « Allez-y, on va tout casser ». Non, il s'est dit « Je cherche à comprendre pourquoi des peuples utilisent la violence à certains moments et est-ce qu'ils avaient d'autres moyens pour accéder à leurs revendications ?» Absolument, absolument. Alors, très rapidement, parce que je vois le temps passer, très rapidement, la domination est la violence première. C'est la violence première. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un débat sur la violence, n'oublions pas que la violence la plus destructrice, c'est la violence qui ne se voit pas parce qu'elle est inscrite dans la quotidienneté, inscrite dans le fonctionnement des institutions, inscrite dans les discours publics qui sont tenus et qui amènent certains à se considérer comme à part et d'autres à se considérer comme dominants. Enfin, on parle de violence atmosphérique. Autrement dit, la violence la plus destructrice, c'est celle qui est partout. Mais comme elle est partout, eh bien, on finit par ne pas la voir. Qu'est-ce qui est le plus violent, nous dit Fanon ? Celui, l'indigène, qui, parce qu'il n'en peut plus, va donner un coup de couteau. Parce qu'à l'époque où il écrivait, on avait ce type de révolte aussi. Il va donner un coup de couteau aux colons qu'il exploite tous les jours. Ou ce que fait ce colon tous les jours, en termes de viol de la dignité de la personne, en termes de mépris, en termes de rabaissement, etc. Et bien entendu, quand il pose la question, il y a répondu. Et donc pour Fanon, c'est là le point de départ. Et la violence du dominé est toujours, comme tu le disais, une réponse à cette violence première. Fanon nous dit, si cette violence n'est pas mise en politisation, si elle ne rencontre pas une explication politique, elle va se transformer en destruction de soi. Pour Fanon, il y a cette belle phrase qu'il cite, « Tant qu'on n'a pas compris qui est la cible, c'est-à-dire quel est le système qui m'opprime, eh bien, nous dit-il, le noir tue le noir, l'arabe tue l'arabe, le pauvre tue le pauvre. » Et effectivement, Fanon constate que, avant, dans les pays colonisés, avant que d'avoir des organisations capables de porter un espoir social d'indépendance, il y avait effectivement une montée des violences entre indigènes, tout simplement parce que la cible n'était pas perçue, et donc je me retourne contre le plus proche. Et je vais être violent avec mon proche plutôt que d'être violent avec la source de mes souffrances. Et il met dedans l'alcool, la folie, comme étant des conséquences de la violence première. Quant à la forme de la violence, nous dit Fanon, eh bien, le dominé, quand il a besoin de se révolter, il se révolte comme il peut. C'est très facile quand on n'est pas dans un espace qui a amené à une révolte, que de venir donner des leçons, dire « fallait pas faire comme ça ». Le dominé se révolte avec les outils, les canaux dont il dispose à un moment donné. Dans les révoltes des quartiers populaires, comme on a connu en novembre 2005, ça va être l'année, c'est bientôt l'anniversaire, ou au moment de la mort de Naël, dans ces révoltes-là, il n'y avait pas d'autre moyen pour faire entendre ce qui était perçu comme étant la douleur, mais aussi le ras-le-bol d'un système qui humilie les victimes et leurs familles. Et donc, la forme de la violence n'est jamais le résultat d'un choix posé. Elle est le résultat des circonstances, de ce qu'il y a de disponible comme canal d'expression et canal de mobilisation, et du degré d'isolement des dominés. Parce que, effectivement, si la question des quartiers populaires était prise en charge par toutes les organisations qui se disent démocratiques, de gauche, etc., ben les habitants des quartiers populaires ne seraient pas seuls face à cette violence. Et donc, il faut interroger l'isolement d'une partie de notre population qui les conduit à ces dimensions-là. Troisième thème que je voulais aborder, parce que j'en entends beaucoup parler aujourd'hui, et c'est un bon indicateur, on voit réapparaître en Afrique et dans la diaspora de multiples débats sur le panafricanisme. C'est une bonne nouvelle. à condition de définir ce que l'on entend par panafricanisme. Alors vous êtes comme moi, vous êtes sans doute surpris de voir apparaître des mots tous les jours. Alors on a eu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, ça veut dire qu'il faut toujours s'interroger quand il y a plein de mots qui émergent. Postcolonialisme, décolonialisme, alors on a toute une série de termes, de nouvelles théories qui émergent. Pourquoi pas, à condition de savoir ce que l'on met dans chacun de ces termes. Fanon a été un des premiers penseurs et pour moi un des plus grands penseurs du panafricanisme. D'abord, il nous alerte sur les limites du panafricanisme qu'il appelle identitaire. Vous savez, la première phase dont j'ai parlé tout à l'heure, la deuxième phase, celle où on tord la barre de l'autre côté, où il nous dit, et il cible en particulier, les théories de la négritude à l'époque, en distinguant, à juste titre, ici en Europe, on mélange tout, et donc quand on dit la négritude, on pense que Aimé Césaire et Senghor, c'est la même chose, c'est deux théories exactement opposées de la négritude, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais ici c'est la négritude, donc on met tout dans le même sac, de toute façon les Noirs c'est tout dans le même sac, hein, c'est connu, ouais, ils sont tous pareils. C'est bien entendu Senghor qu'il vise quand il critique la négritude, c'est pas Césaire d'ailleurs, il cite Césaire pour critiquer Senghor, c'est-à-dire cette idée que l'émancipation serait le retour à une identité antécoloniale, d'avant la colonisation. Et là, Fanon nous dit, mais ça, c'est pas possible. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les peuples ne retournent jamais en arrière. Ils peuvent, bien entendu, ils doivent connaître l'histoire et les identités antérieures, non pas pour les reproduire, mais pour inventer leur culture d'aujourd'hui. Pour inventer de manière autonome, mais pas sous la dépendance, leur culture d'aujourd'hui. Vous savez, la culture, c'est comme tout. Dans les moments où on a un proche qui décède et qui laisse un petit héritage, dans la salle, j'imagine, ce n'est pas des héritages d'euros ou de dollars que vous avez, mais il nous laisse quelques meubles, etc. Voilà. Dans un héritage, vous dites ça, je le garde, ça, je peux pas. Eh bien, c'est la même chose dans la culture. Il y a des choses qu'il faut connaître, mais qui ne servent plus en termes d'utilité sociale pour la vie d'aujourd'hui. Simplement, ça n'est pas le dominant qui va me dire ce que je garde. C'est moi, c'est les peuples eux-mêmes qui doivent faire leur tri en fonction de leurs besoins d'aujourd'hui, de leurs projets de développement dans leur pays, en se libérant du colonialisme. Et donc, le panafricanisme qui se limite à cette dimension nostalgique est un panafricanisme qui n'aide pas les dominés, et même qui sert les dominants. Les dominants aiment bien, aujourd'hui, hein, dans le passé, ils critiquaient, mais aujourd'hui, ils aiment bien faire des musées des arts primitifs. Ils aiment bien tout ça. Demander à nos femmes de venir danser une danse ancestrale, ça, ils aiment bien. Ils sont un peu plus embêtés quand on leur demande la réparation. Et donc, le panafricanisme identitaire empêche de poser toute une série d'autres questions. Alors, si ce n'est pas dans l'identité du passé qu'on va trouver la base du panafricanisme, c'est dans quoi ? Fanon nous dit, c'est dans la communauté de destin. C'est-à-dire que l'avenir des peuples africains, s'ils veulent réussir un jour à se libérer de l'impérialisme, s'ils veulent avoir le rapport de force qui leur permet de déjouer tous les plans de destruction de leur expérience émancipatoire. Et ne nous trompons pas, l'Afrique a été le continent où il y a eu le plus d'expériences émancipatoires. Plus qu'en Amérique latine, j'ai fait le décompte dans un de mes livres, plus qu'en Amérique latine. Et pourtant, l'Amérique latine est connue à juste titre comme étant un continent de révolution, etc. Il y en a eu plus en Afrique. Elles ont toutes été sabotées, détruites, avec des leaders assassinés, avec des asphyxies économiques, etc. Et donc Fanon nous dit, il va bien falloir tirer le bilan. Notre panafricanisme, c'est qu'aucune des nations africaines ne réussira à s'émanciper si autour d'elles, les pays voisins sont des agents du colonialisme ou des agents de l'impérialisme. La nouveauté de ce qu'on vit au Sahel, elle est extrêmement importante. Le fait que trois pays en même temps aient fait un coup d'État patriotique, c'est des réalités complètement différentes pour qui connaît le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais le fait qu'ils soient à trois, eh bien, l'impérialisme hésite pour intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'interviendra pas, hein, mais ils hésitent. Ailleurs, on aurait eu, si ça avait été que le Mali, on aurait déjà eu une intervention, soit directe, soit en termes d'encerclement ou de sabotage économique. Je voudrais juste citer un exemple. Quand la Guinée, dans les années 60, sous la direction de Sékou Touré, a décidé de sortir du franc CFA, mais les États impérialistes ont tout fait. D'abord, on a bloqué, on a tenté d'affamer le peuple guinéen, c'est-à-dire qu'on a bloqué les livraisons de riz, mais surtout, l'État français a été jusqu'à faire produire par la Banque de France de faux billets guinéens pour les jeter sur la plage. Donc il y avait des ballots entiers de billets guinéens qui venaient pour casser la monnaie, la nouvelle monnaie guinéenne, etc. Donc on voit bien que si les pays environnants ne sont pas en solidarité, eh bien c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et donc Fanon nous dit, le rapport de force militaire, le rapport de force économique, le rapport de force diplomatique nécessite en Afrique une dimension panafricaine et que ça, c'est une base matérielle solide qui nous permettra de dépasser, y compris des conflits du passé. Parce que quand on a une base d'intérêt commun, eh bien, on regarde autrement ce qui a pu nous diviser par le passé. En tout cas, on peut en débattre. Parce qu'il y a des débats du passé qu'il va falloir reprendre. Oui, il y a eu un esclavage j'hésite sur les termes. Ce n'est pas un esclavage musulman. Donc, on va dire un esclavage arabo-berbère. Oui, et il faut tirer ce débat. C'est l'objet d'un de mes derniers livres, de tenter de poser ce débat de manière rationnelle. Mais en ayant toujours en tête que ces débats-là, et ça, Fanon nous le conseille dès cette époque-là, il nous dit qu'il y a des débats entre nous et des débats avec d'autres. Le débat, par exemple, sur l'esclavage est un débat entre Africains. Sinon, il est instrumentalisé. Vous n'avez pas vu comment l'extrême droite sont un des porteurs de ce débat. Dès que vous allez sur les sites d'extrême droite, vous allez voir. Il faut absolument dénoncer l'esclavage arabo-berbère. Ouais. Vous pensez vraiment que l'extrême droite, c'est par amour des Noirs qu'elle fait ça? Et donc, il y a bien des débats qu'on doit avoir entre nous, y compris quand ils sont virulents, et d'autres qu'on peut avoir de manière plus large. En tout cas, le panafricanisme, s'il n'est pas identitaire, il ne peut être que sur une base politique, c'est-à-dire sur la base d'un projet révolutionnaire. Je le dis parce que ce mot est en train de devenir un mot magique. Tout le monde l'utilise. La dernière nouveauté que j'ai pu voir, c'est la Banque mondiale et le FMI qui sont pour le panafricanisme. C'est quand même extraordinaire pour vous dire. C'est dire qu'on a vraiment besoin de revenir à Fanon pour comprendre qu'est-ce qu'on met derrière ces dimensions-là. En conclusion, je dirais que l'actualité de Fanon, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas sortis des raisons qui ont conduit au colonialisme à partir de 1492, parce que c'est de là que datent les premiers pas du capitalisme et du colonialisme, et que nous sommes encore dans cette ère où une partie du monde, les centres impérialistes, dominent une périphérie qui sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Merci.
Alors nous allons passer à Monsieur Lézo, qui va d'abord nous définir ce que c'est le comité Mariga et qui ensuite va nous parler du dernier livre.
Oui, je vais expliquer tout ça parce que moi-même j'étais embarrassé pour trouver le sujet. Donc ne t'inquiète pas, on va y arriver. La commande qui m'avait été passée, c'était de décrire un peu les actions du comité Mamega et de ses partenaires depuis les années 1982. C'est en 1982 qu'Aimé Césaire arrive à Marseille, je dirais un peu plus tard, avec le premier mémorial Front Fanon qui avait eu lieu en Martinique. Et c'est notre ami Jean-Marc qui avait amené ça dans ses valises. Ensuite, il y a eu le numéro spécial que tu connais sans doute, de Sans Frontières, 1983, qui nous a permis de découvrir aussi Frantz Fanon. Donc, OK, je prends la commande et je me dis, bon, ça va. Mais si je commence à faire tout l'historique en donnant des titres, des choses comme ça, etc., j'aurais tôt fait de vider la salle. Alors, je me suis dit, je cherche, il faut trouver quelque chose, le temps passe, samedi arrive, il faut trouver quelque chose à dire. Et puis, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, vous reconnaissez la chanson de Barbara. Sorti de mon ordinateur, il y a un livre qui s'appelle « Les derniers jours de Frantz Fanon » de Christian Filostra. Un bouquet que je ne connaissais jamais, 1982, quelques années d'exploration de Frantz Fanon. Je ne connaissais pas du tout ce livre. Ce livre qui est censé relater les derniers jours de Frantz Fanon aux États-Unis, sur son lit de douleur et finalement de mort, puisqu'il va mourir aux États-Unis. Alors, il a été, pour lui, ce fut sans doute un crève-cœur d'aller mourir en pays capitaliste aux États-Unis. On l'avait d'abord orienté vers l'URSS, et puis, bon, la maladie étant, les spécialistes même de l'URSS ont dit qu'il n'y avait qu'aux États-Unis que tu pourrais avoir une chance de guérir. La carrière de Fanon fut fulgurante, hein. Il meurt à 38 ans, hein, quelque chose comme ça. 36, il meurt à 36 ans et son cancer a été découvert du côté de Tunis un an avant. Donc pour lui, il a tout fait rapidement. Hein. Il a tout fait rapidement. Donc je vois ce livre qui raconte les derniers jours de Frantz Fanon. Je n'avais jamais vu ça dans aucun bouquin, dans aucune bibliographie, qui serait censé raconter les derniers jours de Frantz Fanon sur son lit de... son agonie, quoi, son lit d'hôpital. Suivi d'un entretien avec sa femme, Josie Fanon. On ne parle jamais assez des femmes. Et en arrivant ici, on m'a dit, j'espère que tu auras quelque chose à dire sur les femmes. Ça sera l'essentiel de mon propos. Sur Josie Fanon. Alors, je mets deux limites à ce bouquin. La première limite, c'est que ce bouquin a été publié en 2022. 2022, c'est comme les évangiles. On publie ça bien après l'objet, le corps du débat. Donc je me suis dit, pourquoi avoir attendu 2022 pour publier un livre aussi important qui nous donne les derniers mots, les derniers écrits de Frantz Fanon. Donc je mets une première limite, parce que c'est comme les évangiles, on remettra tout ça dans ce contexte, et peut-être que ce qu'on prend pour les paroles de Frantz Fanon, eh bien ça a été un peu trafiqué, manipulé. C'est la première limite que je mets là-dessus. Deuxième limite, c'est que ce livre est tout à fait introuvable. C'est-à-dire que j'ai cherché, il n'est pas en vente, il est en rue. Oh, si on tape sur les portails, ce livre y est. Il y a un deuxième livre de cet auteur qui s'appelle Frantz Fanon aux États-Unis. Frantz Fanon aux États-Unis. États-Unis, c'est-à-dire le peu de temps qu'il passe aux États-Unis et qui reprend le texte de ce livre premier. Alors, comme j'ai vu qu'il était à la FNAC à disposition en livre de poche, je vous engage à vous le procurer et vous faire votre propre opinion sur la chose. Oui, on peut le commander à Transit, pardon. J'ai honte, mais je vous ai rappelé que j'ai remanié mon propos. Le deuxième bémol, oui, c'est-à-dire que, voilà, il faut faire ça. Et deuxième bémol, c'est qu'on ne parle pas de Josie Fanon. Il me semble que Josie Fanon, en tout cas dans certains écrits, c'est elle qui aurait, sous la dictée de Fanon, écrit Peau Noire et Masque Blanc. Sous la dictée de Fanon, bien sûr, mais c'est elle qui aurait écrit Peau Noire et Masque Blanc. C'est très important. Et ne dit-on pas que derrière chaque grand homme, il y aurait une femme au moins.
Il y a différentes thèses.
Mais c'est pour ça.
Il y a différentes thèses, mais toutes les thèses parlent d'une femme qui écrit sous la dictée de Fanon.
C'est pour ça donc, que je mets ces deux bémols et chacun fera son opinion parce que dans Peau noire et masque blanc, la place... Donc il faut toujours laisser une petite place aux femmes. Ne vous occupez pas, je sais me faire ruer de temps en temps. C'est couteau sept qui savent ce qu'il n'y a dans quel giromont. Seul le couteau sait ce qu'il y a au cœur du giromont, du poturant. Ou de la passée. Elle est venue pour me torpiller. Donc voilà. Et ce livre, c'est un livre que m'avait offert Jojo sur la condition des femmes antillaises aux Antilles. Donc voici le propos, les derniers jours de Fort Fanon, ses réflexions à l'hôpital entre lucidité et délire, en deux ou trois examens de santé et autres. Mon heure touche à sa fin, ma numération est inexorable. Numération, c'est-à-dire ses contrôles de sang, savoir où il en est. J'exploite la proximité du trépas pour occuper mon esprit avec les choses auxquelles j'ai appris à croire. Le délire aide. Il m'oblige à contempler mes hallucinations et en essayant de me rappeler ce que j'ai peut-être murmuré, c'est ma vie qui défile devant moi. Il parle de sa fièvre, il parle de sa foi, il parle de son manque de lucidité, de ses tourments. Donc il raconte tout ça à sa femme qui le relate dans ce bouquin. Ma fièvre viendra trop tôt de toute façon. Il me semble que la dernière émission arrive. Quand es-tu devenu révolutionnaire ? Lui demande Josie. J'ai répondu sans hésitation en créole. On aime bien écarter Franz Fanon entre le créole antillais et le créole algérien. C'est un homme et il n'y a pas de quoi écarteler qui que ce soit. Donc, il pense à sa Martinique, il dit que je dois tout à la Martinique. Il a façonné mon caractère et façonné mes réflexions sur le colonialisme. Quand je délire en créole. Donc, il refait un peu son parcours de vie quand il était aux Antilles. Vous savez qu'il part très tôt. Il quitte très tôt, il fait partie de ce qu'on appelait les dissidents. Il part, il a 18 ans à peine, pour aller délivrer l'Europe de la barbarie nazie. Un peu plus tard, il va écrire « Je me suis trompé » lorsqu'il a vu ce qu'il a constaté, ce qu'a relaté Saïd tout à l'heure dans ce propos. Ma fin est proche et on dit souvent que les souvenirs surgissent au moment final. On a l'habitude aussi d'opposer Césaire et Fanon. Alors là aussi, je vous renvoie un excellent livre que vous pourrez trouver à Transit de notre ami Pierre Bouvier, oui, qui s'appelle Fanon et Césaire, oui, et qui remet là les pendules à l'heure, si l'on peut dire. Il parle aussi ce qui lui a déterminé et ce qu'il a déterminé à mener le combat. Il avait à peine 10 ans. Il voit un léchage sur la place de la Savane en Martinique. Et c'est là qu'il va conclure son destin. Le frère d'Aliker. Le meilleur ami de Césaire. Il parle aussi des béquets. Alors vous savez, les béquets, c'est cette caste de blancs en Martinique. Il parle aussi des béquets, qui étaient, bien entendu, du côté des dominateurs, du côté des colons, etc. Et bien entendu, qui étaient aussi du côté du régime de Vichy, comme on dit chez nous, au temps de l'amiral Robert. Nous étions des dissidents. On a risqué notre vie pour aller rejoindre le général de Gaulle, parce que, bon, il traverse, pour vous qui connaissez un peu les Antilles, ils traversent le canal de la Martinique, tous ces dissidents traversent le canal de la Dominique, etc., et puis de proche en proche, pour aller rejoindre l'Europe.
Donc, il faut dire que c'est un canal entre les deux îles, et que dans ce canal, la mer est particulièrement mouvementée. Il y a eu beaucoup de gens qui sont noyés, et dans les dissidents, il y en a eu qui se sont noyés.
Donc, Césaire et Fanon, il faut rappeler que Césaire a été professeur de Fanon. Et loin de les opposer, François Fanon reprend un peu toutes les thèses. Il n'est pas anti-Césaire, etc. La seule chose qui le préoccupe, c'est les faits. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour arriver à la décolonisation ? Et il se met en colère contre Césaire, surtout lorsque Césaire joue la carte de l'assimilation en 1946 avec la départementalisation. Il parle de Mayotte Capétia, que l'on retrouve dans Peau noire et masque blanc. Une chanteuse, un des principaux personnages de Peau noire et masque blanc. Et il nous explique dans ces derniers moments comment Mayotte vient la hanter dans son délire, dans ses rêves. Et me dire combien, moi Fanon, j'avais mal compris mon pays natal et les femmes sous le colonialisme. De tous les endroits, pour venir me hanter, dit-il, elle a choisi mon lit de mort. Elle était venue me confronter à nouveau dans l'un des rêves les plus bizarres de ma vie. Comme une quimboiseuse, jetant ses sorts. Mayotte Capétia me criait des paroles en créole. Elle m'accusa de venir me cacher derrière la dialectique d'Hegel pour maudire mon pays natal. Vous êtes plein d'éducation française et pas différent des autres noirs avec des masques français que vous avez condamné, a-t-elle crié. Pouvons-nous faire autrement que de s'accommoder de l'occupation qu'on a française? Qu'est-ce que les femmes comme moi devraient faire? Mourir de faim? Et les enfants, qui va les nourrir? Puisque vous oubliez que la Martinique n'est pas simplement dominée par les Français, mais dominée par des hommes. Tu as vu, je l'ai dit. Pas simplement dominée par les Français, mais dominée aussi par les hommes. Non, mais parce qu'après... Quel est votre remède pour les femmes martiniquaises, docteur? Elle s'adresse à Fanon. Mayotte Capétia, ou alors mon subconscient, avait raison. J'aurais dû en dire plus sur les femmes sous le colonialisme, dans le monde musulman et en Afrique. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de soulèvement réussi, à moins que les Mayotte Capétia ne fasse partie de la lutte. Et on connaît le rôle des femmes dans la libération. Je demandais à ma femme, alors pourquoi mon subconscient me questionnait-il à ce stade? Je lui ai parlé de dépaler. Dépaler, c'est quand on perd la raison. Ouais. Ou paler ou dépaler. Dans le contexte de la Martinique caribéenne, dépaler n'est pas simplement divaguer et dire des choses déraisonnables. Avant de se jouer dans l'histoire, Mayotte Capétia doit saisir son individualité à deux mains en découvrant son statut de sujet colonial. Les femmes, c'est faire de la platitude que de dire qu'elles jouent un rôle dans la révolution. J'ai dû considérer leur vie à la lumière de la révolution et ce que ces vies deviendraient par la suite. Les femmes, les agriculteurs, les berbères, les kabyles, personne ne devrait être laissé de côté de la révolution. Je me suis appesanti sur ce paragraphe. En plus, ensuite, ce que tu as dit, il parle des révolutions en Afrique ou des premiers mouvements de libération en Afrique, il parle de Sékou Touré, tu as bien décrit comment le régime français a mis au pas la révolte, etc. Sans aucun doute, j'aurais aimé avoir vu l'Algérie indépendante. Je ne doute... Oui. Parti avant. Je ne doute pas que nous ayons vécu le colonialisme en Algérie. Donc lui, il était certain, en 61, que la chose était inéluctable. Et de la seule manière que cela pouvait être fait, et qui a été décrit parfaitement par notre ami Saïd tout à l'heure, sur les moyens de réussir ces combats-là. Le colonisateur comprend que s'il permet à l'indigène de devenir son égal, l'entreprise, nous nous répétons, l'entreprise coloniale elle-même cesse d'exister. S'il regagne sa conscience de lui-même, l'indigène découvre la nécessité de réparer son estime de soi, une responsabilité, un impératif psychique qui l'oblige à chercher à déclencher une rébellion pour forcer le colonisateur hors de sa terre. Il récupère son humanité en conquérant sa liberté et sa propriété. L'indigène n'a rien à perdre que son assujettissement. L'indigène était devenu un être humain. Et puis, il parle de Sartre. Vous savez que son livre, Les damnés de la terre, dans sa première version, a été préfacé par Jean-Paul Sartre. Et dans Les damnés de la terre, il reprend un mot, dit-il, de son professeur philosophe. Nous sommes à peu près persuadés qu'il s'agissait d'Aimé Césaire. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous, dans Peau noire et masque blanc. L'occurrence du mot juif, je ne l'ai compté pas plus tard qu'hier soir avant de m'endormir, on la retrouve 70 fois dans Peau noire et masque blanc. Reconnaître que les élites africaines africanisaient le colonialisme ne m'a pas aidé à aller mieux. Quelle horreur l'avenir de l'Afrique va être. Je suis reconnaissant de ne pas être là pour assister à l'horreur des coups d'État en Syrie et des dictateurs à vie de toute Afrique. Oui, je voudrais revenir un peu sur Sartre et sa préface. On interroge un peu plus tard sa femme, on interroge un peu plus tard Joseph Fanon, et voici ce qu'elle dit. C'est à mon initiative que la préface de Sartre pour Les damnés de la terre a été enlevée. Alors pour Fanon, il avait dit que de toute façon, désigner Sartre pour préfacer Les damnés de la terre pouvait l'aider à mieux se faire connaître. Donc pour lui, c'était un plus. José dit, à mon initiative, je fais enlever la préface du livre dans les prochaines rééditions. Disons que d'un point de vue occidental, c'était une bonne préface. Sartre a compris le sujet dans Les damnés de la terre. Mais en juin 1967, quand Israël a déclaré la guerre aux pays arabes, il y eut un grand mouvement pro-sioniste en faveur d'Israël parmi les occidentaux français, les intellectuels. Sartre a pris part à ce mouvement. Donc pour José, il n'était pas question de voir Sartre préfacer Les damnés de la terre. J'ai jugé que ses attitudes pro-sionistes étaient incompatibles avec le travail de Fanon. Quelle que soit la contribution de Sartre dans le passé, le fait qu'il n'a pas compris le problème palestinien a inversé ses positions politiques antérieures. Et tu vois, nous revenons toujours au même problème. Donc il nous parle effectivement de l'Afrique, les difficultés qu'auraient les Africains s'ils ne prenaient garde à mettre une tentative de décolonisation en place. Et là, je n'y reviendrai pas parce que tu l'as très bien expliqué. Alors, je vais aller rapidement parce que, oui, alors rapidement, je vous parle de la fin. Mourir en Amérique comme ça, merde alors. Le crépuscule est sur ce jour. L'Algérie, le damné du colonialisme à qui je pense. Juste est le Félaga, luttant pour son humanité. Et le Félaga, mort pour le sien. Le coma est à la porte. Je vois Fort-de-France, le tamarinier sur la savane, sous lequel j'étais assis, et rêvais du courbouillon de ma mère. Je t'aime, Rosie. la foi rédemptrice, et que tant qu'il y aura le colonialisme, sont les derniers mots de Fanon, tant qu'il y aura le colonialisme, il y aura un félaga nommé Frantz Fanon. Un félaga.